Radio. Radio. Radio.
Would you like a cup of coffee?
That's the most stupid thing I ever heard of.
I promise.
Je professeur, je vous dis merde.
We're going to have lots of happy times together.
Clap. Le cinéma qui s'écoute.
Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur Clap, l'émission du cinéma qui s'écoute. Aujourd'hui, on achève notre cycle sur le court-métrage qui a duré tout le trimestre, donc avec cette dernière émission. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, donc ce trimestre, on a abordé la question du court-métrage. On a parlé d'abord de l'écriture du court-métrage avec Antoine Paolicchi qui est venu nous parler de ses films et de comment il écrivait et de qu'est-ce que c'était le court-métrage pour lui. Ensuite, nous avons parlé de l'économie du court-métrage avec Morane et Manon, qui travaillent pour séquences court-métrage, mais aussi pour le local. Et du coup, on a parlé de production et de diffusion du court-métrage toujours. Et nous avons ensuite parlé du court-métrage comme dans la liberté que ça pouvait donner et comme forme possible d'expérimentation. Et on a parlé du coup des cinétracts avec Pierre. Donc ça, c'était la dernière émission. Pour cette émission-là, on va un petit peu continuer sur cette idée de l'expérimentation, de la liberté qu'offre le court-métrage. On a plein de petites choses à vous faire écouter, puisque c'est la dernière émission, donc on avait envie de vous montrer un petit peu tout ce dont on avait envie de parler et qu'on n'a pas trop eu le temps. Et donc, il va y avoir plusieurs magnétos. Et voilà, on en profite juste pour remercier tous les invités qui sont venus ce trimestre-là, pour remercier... On va faire le remerciement au début pour une fois, pour remercier Aurèle et Raphaël à la technique. Et puis, on va se remercier nous avec Marie et Hugo pour avoir animé, et Raphaël qui a animé aussi. Et voilà. Bon, tous ceux qui ont participé à l'émission ce dernier trimestre, quoi, en gros, merci beaucoup. Et on va attaquer l'émission, du coup, Marie.
Du coup, aujourd'hui, on va parler de Kino Clock avec Margot Frumin, qui nous fait le plaisir de venir nous en parler. Margot fait partie de notre asso qui s'appelle Kaleidos Film. Et les Kino Clock, du coup, c'est une forme de film que l'asso a décidé d'expérimenter et que cette année, après une nouvelle tournure, du coup, on laissera Margot nous en parler.
Coucou Margot.
Coucou.
Alors, on est ensemble parce que tu vas nous parler des Kino Clock.
Ouais.
Est-ce que tu peux déjà nous dire un petit peu ce que c'est une Kino Clock ?
Alors, une Kino Clock, c'est un moment où on se retrouve à plusieurs et où on peut réaliser un ou plusieurs films dans un temps restreint.
Ok, putain, c'est une définition hyper carrée, c'est trop bien. Et le temps, c'est combien ?
Alors, jusqu'ici, on faisait plutôt 24 heures. Donc, on se retrouve à 8 heures ou 9 heures, par exemple, et on a jusqu'à 8 heures ou 9 heures le lendemain pour avoir fait un film. Mais là, on est en train de... On va essayer 48 heures pour pouvoir dormir entre deux prises, quoi.
D'accord. Et y a un but ou... Enfin, comment ça se passe ? C'est-à-dire concrètement, genre, t'arrives à 8h et comment ça se passe ? Parce que c'est un truc en groupe ?
Alors, du coup, l'idée, c'est que chacun fait un peu comme il veut. Donc, quand on se retrouve au début, les groupes se forment ou pas. Donc, on a le choix de faire un film seul ou de se mettre à plusieurs si on a envie. C'est assez libre à ce niveau-là. Donc c'est en discutant, en arrivant, qu'il y a des affinités ou des projets qui parlent à certains. Et du coup, voilà, le groupe se forme à ce moment-là.
Et du coup, en 24 heures, c'est écriture du film, seul ou à plusieurs, du coup, et puis tournage, montage dans la nuit, et en gros, vous visionnez le lendemain, quoi.
Exactement.
Ok, tout ça sans dormir.
Tout ça sans dormir, yes. Ce qui est très dur. Tout le monde n'y arrive pas.
Et là, cette année, du coup, pour, vu que tu es dans l'asso Kaleidos Film,
ouais.
Tu as repris un peu les Kino Clock. Enfin, c'est toi qui t'en charges cette année.
Ouais.
Et tu es une grande passionnée des Kino Clock depuis le début.
Oui.
Et c'est quoi qui t'intéresse dans ce format-là ?
Ce qui est chouette, je trouve, dans ces moments, c'est que chacun a ses connaissances, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a, ils font du son, par exemple, du montage. D'autres, ils font rien du tout. Et ils découvrent, quoi. Enfin, moi, c'était le cas au début, par exemple. Et ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, chacun s'entraide, quoi. Parce que même si on est deux à faire un film, par exemple, on s'aide quand même les uns les autres, même si on n'est pas dans le groupe. Et donc, ça permet d'apprendre des techniques qu'on ne connaît pas et de croiser les compétences de chacun.
Donc on peut faire une kinocloc même si on ne fait pas de film à côté, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et du coup,
tout le monde est bienvenu.
Tu découvres un peu comment tu pourrais faire un film même si tu n'en as jamais fait, quoi.
Voilà.
Ok.
Toi, t'as fait quoi comme genre de film pour les Kinocloques alors?
Du clip, du dessin animé, plusieurs choses assez différentes, même des expérimentations plus ou moins documentaires. C'est ça qui est chouette aussi, c'est que du coup, ça permet d'expérimenter des choses que tu te doutais même pas que tu ferais un jour, ou alors des trucs que tu as toujours eu envie de faire, enfin voilà.
Et pourquoi 48 heures alors maintenant du coup?
Alors 48 heures parce que c'était un petit peu difficile en fait de rester éveillé et concentré et efficace pendant 24 heures d'affilée. Ça met le corps dans un état qui est très intéressant parce que du coup, t'es dans une sorte d'ébullition, quoi. Mais en fait, c'est destructeur quelque part. Et du coup, on s'est dit que 48 heures, ça permettait de faire une pause et d'être un petit peu plus réveillé, quoi. Parce qu'après, on met aussi 3 jours à s'en remettre, quoi. C'est ça qui est problématique.
Parce qu'après, l'intérêt aussi, de ce genre de truc, c'est que comme le temps est restreint, justement, que même si c'est 48 heures, ça reste assez court pour faire un film, que du coup, t'as peu de temps, donc t'as peu le temps d'avoir de freins aussi. Enfin, tu vois, tu dois aller vite et du coup, tu vas pas penser à chaque fois à ce que tu dois faire et ça te libère quelque part. Enfin, tu vois, t'as pas de, je sais pas comment on dit, inanition, c'est quand tu manges pas. d'inhibition, c'est ça. Genre, t'as plus de. Tu vois, et je pense que quand tu.
T'es lancé, quoi.
Ouais, voilà. Et quand t'as pas forcément l'habitude d'en faire ou quand tu bosses avec d'autres gens et tout, t'as pas le temps, j'ai l'impression, de trop te questionner. Du coup, t'es obligé de te lâcher, quoi.
Oui, c'est un peu ça, ouais. Mm. T'es lancé. Il faut qu'il y ait un résultat dans quelques heures, donc tac-tac, quoi.
Ok.
Faut y aller.
Bon. Eh ben, super. Eh ben, merci de nous avoir parlé des Kinocloques.
Bah, avec plaisir.
Margot. Et bah, bonne prochaine Kinocloque, alors.
Ouais, merci.
Colonel Edwards? Yes, sir. Good luck. Thank you, sir.
Clap. Le cinéma qui s'écoute. Voilà, donc c'était Margot Frimin qui nous parlait des Kinocloques organisés par Kaleidos Film. On va enchaîner maintenant avec un son que nous propose Benoît Labourdette, qu'il a eu la gentillesse de nous vous envoyer pour cette émission. Donc Benoît Labourdette, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, pour ceux et celles qui ne le connaîtraient pas, c'est un cinéaste qui fait pas mal d'expérimental et qu'on a connu nous parce que il est venu faire un atelier à l'ENSAV, donc à l'école de cinéma de Toulouse, et son atelier s'appelait les Pocket Films, et le principe était de faire des films tous les jours, donc des petits films, de juste faire un cadre fixe par exemple et de raconter quelque chose dessus. Enfin, c'était vraiment l'idée de faire le plus de films possible, le plus rapidement possible. Donc c'est vraiment utiliser cette force du court-métrage qu'on peut faire rapidement et que, voilà, comme un espèce de... Peut-être un exercice de style ou en tout cas un entraînement à avoir de faire le plus de films possible, même si c'est très court et sans prétention. Et c'était un super atelier. Du coup, on l'a rappelé et il nous propose un petit son qu'on va écouter ensemble.
Je suis Benoît Labourdette, je suis cinéaste. Je fais des films, je propose aussi à bien d'autres personnes de faire des films. J'utilise les petites technologies, le cinéma comme un art pauvre d'une certaine manière, comme on peut faire de la peinture, comme faisait Picasso avec n'importe quoi. Mais je crois que pour le cinéma, c'est pareil. Souvent, on trouve qu'on a des contraintes, qu'on n'a pas ce qu'il faut pour faire ce qu'on veut. Mais la première caméra lumière, elle n'était pas du tout faite pour ce qu'on en a fait, c'est-à-dire raconter des histoires avec. Elle était faite pour capter des tableaux. On l'a détournée de son usage. Donc je crois que les contraintes, c'est des potentialités créatives. Alors, par exemple, si je marche dans la rue... et que je vois quelque chose d'extraordinaire, bah aujourd'hui, avec mon téléphone, je peux le filmer, comme je pourrais écrire un poème. Et bien sûr, ça pourrait aussi me donner une idée. Je vois quelque chose d'extraordinaire, et puis après, je pourrais écrire un scénario, et puis essayer de le refaire. Mais dans le fait de faire les choses sur le moment, d'être en contact avec la réalité de l'inspiration, eh bien finalement... Je crois qu'il y a une vérité qui est peut-être plus forte que la refabrication. Parce que le cinéma, c'est un art ontologique. C'est-à-dire que ce qu'on, comme la photographie, ce qu'on a filmé, ce qu'on a photographié, le fait que ce soit filmé et photographié, c'est la preuve que cette chose était là. Et il y a cette force de la trace de la vie réelle que contient l'image. C'est pourquoi le plan séquence, par exemple, le plan séquence, c'est quand on n'arrête pas la caméra. On en trouve beaucoup, souvent au début des films, un petit peu comme un morceau d'anthologie. Hitchcock en a beaucoup fait, mais aussi Mike Figgis et puis plus récemment Alfonso Cuarón, même dans son dernier film Roma. Au début de Gravity, par exemple, c'est un plan séquence de 15 minutes dans l'espace, c'est un faux plan séquence. Mais justement, c'est intéressant parce que il fait comme si la caméra n'avait pas du tout arrêté de tourner. En réalité, il y a des effets spéciaux, elle a tout à fait arrêté de tourner. Mais dans cette refabrication, pas très intéressante d'ailleurs, mais dans cette refabrication, on sent que la trace véridique du réel, elle porte beaucoup de puissance. Et donc, moi j'invite, je m'invite moi-même, j'invite les personnes à qui je propose de faire des films, et je vous invite, vous, qui écoutez, à non pas à préparer votre film, c'est-à-dire écrire un scénario, tout prévoir pour se rassurer. Je ne crois pas qu'il faut chercher à se rassurer. Je ne crois pas qu'il faille préparer. En fait, on fait comme on veut, hein. C'est ma proposition, je ne veux pas être impératif, mais dans ma proposition en tout cas, et ce n'est pas que la mienne, hein. On est un grand nombre à avoir cette approche de la création. Et je cite encore Picasso, qui est quelqu'un qui était tout à fait dans ce type d'approche. Eh bien, ce n'est pas préparer le film pour se rassurer, pour croire qu'on va maîtriser les choses, mais c'est se préparer à faire le film. Et ça, c'est beaucoup de travail. Alors vous me direz, préparer quoi ? Ben, chacun se prépare comme il a envie. Peut-être que certains vont faire du sport, pour pouvoir faire des mouvements de caméra incroyables avec leur corps. Peut-être que certains vont relire La recherche du temps perdu de Proust parce que ces thématiques-là, ils ont envie d'être habités par elles pour peut-être en retransmettre quelque chose. Peut-être certains vont faire des dessins. Enfin, en tout cas, se préparer, réunir les conditions aussi, peut-être les gens avec qui on a envie de travailler, avec qui ça nous ferait plaisir de travailler. Le lieu, c'est extrêmement important, le lieu, ce qu'on appelle le décor en termes techniques, dans lequel on se trouve, et puis se préparer, ça peut peut-être être médité dans ce lieu-là. Et à un moment, il y a comme quelque chose qui s'impose. Il faut faire. Et le monde propose plein de choses. Une lumière, quelqu'un qui passe, un chien, un son, quelque chose qui résonne, et ça va amener notre caméra à un endroit ou à l'autre. Et c'est finalement, à mon sens, la qualité de la présence au réel qui va faire la qualité de l'œuvre finale. Parce que je crois que la manière de faire quelque chose, elle est complètement présente dans l'œuvre pour la personne qui la reçoit. Donc, il n'y a pas de contrainte. Il n'y a que des propositions créatives dans le monde autour de nous.
Du coup, si jamais vous voulez vous intéresser au travail de Benoît Labourdette, il a un site, c'est très simple, c'est Benoît Labourdette tout attaché avec 2t.com. Avec 2t, c'est pas dans l'adresse. BenoîtLabourdette.com. Et maintenant, on va écouter un magnéto sur les vidéophages. Alors, les vidéophages, c'est une asso toulousaine qui fait un peu comme nos kinobouffes, c'est-à-dire qu'une fois par mois, ils nous font des soirées où ils projettent des courts-métrages. Et ça se passe les premiers lundis du mois à la Dynamo. Voilà. 1, 2, 3, 4.
Salut Clap, on est à la soirée mensuelle des vidéophages à la Dynamo, à l'abbaye de la Sainte-Dynamo, c'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Et on est avec Christophe. Salut Christophe.
Bonjour, pas de problème.
Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est les vidéophages, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce que c'est que cette soirée?
Alors, qu'est-ce que c'est que les vidéophages? C'est simple, c'est un collectif d'individus et de structures en fait, qui s'est rassemblé dans l'idée de diffuser du court-métrage. Ça a commencé il y a fort longtemps dans un petit bar qui s'appelait La Loupiote, qui s'appelle encore La Loupiote, pardon, qui est à Toulouse, rue de Rémusat, je ne suis pas sûr de moi, non, pas rue de Rémusat, je ne me rappelle plus le nom. Enfin bref, et on a commencé à l'époque avec une télé et des VHS, et en diffusant des courts-métrages, enfin des films, en invitant les gens pour en parler, et ça a grossi. Et de La Loupiote, on est passé au musicophage, qui d'ailleurs font un truc dans pas longtemps là, autour du fanzine. On était accueillis chez eux et c'est pour ça qu'on s'est appelé les vidéophages en fait. Parce qu'on était au musicophage et là on a créé l'association, diffusé là-bas pendant pas mal de temps. Après on a bougé dans plein d'endroits différents, on est passé à l'N7, on est passé dans différents bars qui ont eu tous la particularité de fermer après notre passage. Voilà. Là, on n'a pas échoué mais on est arrivé ici. Après moult pérégrinations, ici ça a failli fermer et ça a réouvert, du coup on est revenu. Donc c'est passé de la Dynamo à la Sainte-Dynamo. Quoi, en fait. Et voilà, et c'est toujours la même idée, c'est de diffuser des courts-métrages. Donc nous on est le premier lundi de chaque mois. Et le dernier lundi de l'année, qui se trouve être en juillet pour nous, quoi, on a décidé de faire un festival qui s'appelle la Fête de l'Image. Où l'idée, c'est de projeter dehors, dans différents endroits. Et cette année, on sera, je crois, au musée Labitte.
Et du coup, court-métrage, depuis le début, comment vous choisissez vos films?
Alors, comment on choisit les films? Ça, c'est un peu particulier. On en reçoit énormément. Et on en regarde beaucoup. Et on sélectionne ceux qui nous plaisent avec l'envie de les montrer à d'autres personnes. Et l'envie de voir si les gens qui les ont fait peuvent venir pour en parler un petit peu, quoi. On fait une sélection sur nos critères, hein, qui sont... on a envie de montrer des films qui amènent à réfléchir un petit peu, quoi. Alors c'est vrai qu'on en reçoit beaucoup. Des fois, on va aussi en chercher dans des festivals, type Clermont-Ferrand. On travaille beaucoup aussi avec plein d'associations qui diffusent eux-mêmes des films et qui cherchent des fois une vitrine, entre guillemets, hein, pour leur festival, pour le présenter. Donc là, c'est le cas ce soir pour le festival Jam, je crois, où il va y avoir un film tout à l'heure. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait, quoi. C'est les films qui nous plaisent, avec cette envie qui est quand même pas que de la forme, mais plutôt du fond. Un truc qui est difficile au niveau des vidéophages, c'est qu'on a quand même un peu de bouteille maintenant, on doit avoir une bonne vingtaine d'années. Et c'est qu'on en reçoit beaucoup, ça c'est sûr, mais que c'est d'essayer d'avoir aussi un regard un peu naïf pour dire ça c'est quand même un chouette truc, même si c'est imparfait, etc. Et c'est vrai que nous on cherche énormément les films qui sont pas parfaits, qui ont des faiblesses, qui sont des premiers films, qui sont des trucs qui n'ont pas été diffusés. Enfin, on aime bien être sur ce créneau-là, quoi, ouais. Militant. Du coup, on commence à avoir un énorme catalogue de courts-métrages. Alors, on achète les droits quand on peut. Hein. Enfin, on n'a pas énormément de sous. Quoi. Et on essaie de les faire vivre autrement, dans d'autres soirées, dans d'autres lieux. C'est un peu l'idée des vidéophages. Voilà. Notre politique sur la notion de films faits dans la région, en tout cas, enfin, en tout cas, on va dire dans le coin, nous, c'est vraiment d'essayer de les mettre en avant, quoi. Donc, bien évidemment, c'est une place pour nous plus importante que les films qui sont faits de manière internationale, quoi, voire nationale. On essaie de toujours trouver une place pour ces films-là et d'en diffuser à chaque fois. Quoi. C'est pas toujours évident, parce que des fois, les films qui sont faits par ici sont pas forcément géniaux, mais des fois, ils sont carrément bien mieux que plein d'autres films. D'essayer de trouver des films qui sont pas diffusés dans les circuits habituels, c'est aussi notre créneau, donc ça, on est à fond pour. Mais c'est chouette parce que plein de monde nous en envoie. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas tous à les voir. Ouais, c'est vraiment du boulot de voir des centaines de films, quoi.
Merci, Christophe. Donc, rendez-vous le 4 février à l'abbaye de la Sainte Dynamo pour la soirée mensuelle des vidéophages. Salut!
Qui est là, si tu peux venir nous dire un petit peu, alors on est super content de te retrouver.
J'étais en train de réaliser un long métrage sur le plaisir féminin et je menais pas mal d'entretiens avec des femmes qui finalement liaient assez spontanément leur sexualité et le suivi en gynécologie, ce qui m'a donné envie d'aller discuter un peu avec des gynécologues qui eux m'expliquaient que la gynécologie n'avait rien à voir avec la sexualité. Et c'est cet écart de point de vue, finalement, qui m'a beaucoup interrogée, parce que comment était-ce possible d'avoir un tel écart entre le point de vue du médecin et le point de vue des patientes ? Ça m'a donné envie de creuser un petit peu ce sujet, et par ailleurs, à démarrer cette importante mobilisation, finalement, sur les réseaux sociaux, mais aussi cette mobilisation militante, parce qu'il y a des collectifs qui se sont formés. Il y a une page en 2017 qui s'est créée qui s'appelle Paye ton gynéco, où il y a des témoignages de violences gynécologiques et obstétricales. Et donc, j'ai envie de faire un film d'agite propre, comme on dit, un film d'intervention qui va donner des bases pour réfléchir, se positionner dans un débat public au moment où il se passe. Donc, il n'y a pas beaucoup de recul, c'est un court-métrage qui est un peu en ligne droite, comme ça, mais qui a cette volonté de poser les termes du débat avec un point de vue très subjectif, hein, revendiqué, qui est de demander finalement à cet environnement médical de se remettre en question vu ce que racontent les femmes ou les personnes qui ont un suivi gynécologique, les personnes trans notamment, de la violence subie dans ce cadre-là. C'est un film où moi je me rémunère pas, enfin si, une journée quand même, mais où on a pu payer une monteuse, la chef opératrice aussi, l'ingé son, etc. Donc grâce à un financement participatif. Et c'est un film qui a visé du coup à être en ligne, en accès libre, à circuler gratuitement aussi comme ça, quoi. Dans d'autres cadres, on fait des projections du film suivies de débats où on peut avoir, où je prends aussi l'ampleur de la banalité, de la triste banalité des violences subies en gynécologie, parce que, en gros, moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'il a fallu que je lise ces témoignages pour me rendre compte que mon suivi gynécologique avait été violent. Jusque-là, je prenais ça pour quelque chose que je ne questionnais pas, qui me mettait mal à l'aise, mais ces petites remarques jugeantes, ces petites blagues, comme vous avez vu dans le film, qui peuvent avoir l'air de rien. Finalement, quand on les filme et quand on les regarde d'un point de vue extérieur, on se rend compte de la violence que ça représente. Ben voilà, il y a eu besoin, moi, que je lise des témoignages d'autres femmes pour m'en rendre compte. Et donc, c'est un cheminement, en fait, une prise de conscience sur des choses qui sont anormales et qui sont présentées comme banales. Et dans les débats, ce que je constate quand même globalement, c'est que c'est un nombre important de femmes ou de personnes trans qui ont vécu des choses violentes dans le cadre de ce suivi médical. Et en fait, c'est un service. On n'a pas à être violenté, méprisé, jugé dans ce cadre-là. Donc, il me semble que c'est une position globale du médecin par rapport au patient aussi qui est en redéfinition. C'est vraiment une culture médicale qui va non pas partir de ce qui est posé par la personne soignée, mais plutôt venir en surplomb. Et avec une culture qui est aussi patriarcale, c'est important de le dire, parce que le fait de nier la douleur ou le fait de penser qu'on sait mieux que la femme ce qui se passe dans son corps, même si on a un savoir médical, ça vient aussi de la construction de la médecine occidentale qui s'est construite. Et bon, peut-être je vous l'apprends pas, mais en non-mixité masculine, puisque la première femme infirmière dans le monde occidental, elle est arrivée en 1871, et la première médecin généraliste en France, c'est 1895, donc avant toute la construction de la médecine occidentale moderne depuis le XVIIe siècle, elle s'est faite sans les femmes. sans leur point de vue. Et je crois que c'est ça un peu que je mets en lumière aujourd'hui aussi, quoi. Enfin, qu'on met en lumière, c'est dans cette volonté-là que s'inscrit le film. Ah oui, alors non, mais il ne faut pas avoir encore plus peur des médecins. Là, l'idée aussi du film, c'est de dire que ça existe et peut-être qu'on puisse se reconnaître dans un vécu de violence. Après, c'est aussi pour dire que si on est face à un médecin maltraitant, bah, il faut partir, on peut partir, on a le droit de réagir. Je crois que moi, ce qui m'a aussi marqué quand j'ai vu les images de... Bah, notamment de la consultation en caméra cachée. Enfin, quand je suis rentrée chez moi et que j'ai regardé, j'ai été vraiment choquée par ma non-réaction, par mon incapacité à réagir, mais aussi de me voir dans cette position, c'est-à-dire, comme tu le disais, sur le dos, les jambes écartées, dénudées. C'est pas une position où on peut se défendre, en fait. C'est une position de soumission, c'est une position de faiblesse qui implique un rapport aussi, de hiérarchie dans l'interaction, quoi. Et je pense qu'il y a vraiment des possibilités de repenser ça et des possibilités aussi de nous mettre en tête qu'on n'a pas à accepter d'être maltraité dans ce genre de cadre, qu'on peut réagir, on n'est pas obligé, parce que des fois c'est très dur. C'est pas parce que la personne en face de nous a une blouse blanche qu'elle a toute autorité. Et si quelqu'un nous maltraite, on doit partir. Et on peut trouver des médecins qui, justement, ne nous maltraitent pas. C'est important de les chercher. C'est dommage qu'on ait à les chercher, mais c'est aussi important de le faire. Et c'est aussi possible de faire son suivi gynécologique par des médecins généralistes et par des sages-femmes. Et ça, on le sait peu.
Voilà, c'était donc la dernière soirée des vidéophages où nous sommes allés. Et on va conclure cette émission avec quelque chose que nous attendons tous, c'est la chronique cinéphilique du Jojo.
Salut les copinous, on va faire court, c'est dans le thème. L'idée c'est de se sentir libre, libre d'envoyer de l'expression dans tous les sens, de partir en vrille, savoir kiffer tous les genres, tous les styles, de l'expérimental cyberpunk des années 60 aux prémices du cinéma à sensation, avec l'arrivée du train à la gare de la Ciotat, des Lumières, mais surtout les films d'Alice Guy, précurseuse effacée par la toute-puissance masculine. Cette femme, en fin 1800, envoyait des films manifestes des libertés, comme celle d'être une femme. Le cinéma comme tract dès la fabrication des premières caméras. Déjà symptomatique de l'urgence à s'exprimer sur les inégalités hommes-femmes, toujours pas réglée cette histoire alors que ça fait plus d'un siècle que les femmes s'égosillent pour être respectées. Mais non, le cinéma n'est pas forcément un outil crucial aux luttes. Ça plante des graines, fait acte d'histoire, au mieux laisse une trace pendant une semaine dans les caboches, mais ne remplacera jamais une revendication dans la vraie vie, dans la vraie rue. Faut se battre pour être libre. Le court-métrage a tout pour se sentir libre. Comme Alice Guy, il est dans l'ombre, peu vu et peu écouté. Donc il peut se développer et s'est développé déjà en roue libre. Partir en vrille dans tous les genres, tous les styles. La vraie liberté, c'est celle qui vole avec les oiseaux et pas avec les lingots. Selon qui le pratique, le spectre des possibles est infini. On remarquera aisément les courts curriculums, des cours d'artistes. Mais Monet sans pinceau peut pas peindre soleil couchant sur la Seine. Monet sans Monet, c'est des premières gribouilles au charbon. Et les cours font parfois guise de Monet pour acheter une liberté future. Prendre garde à ce que le pinceau ne soit pas fabriqué à la chaîne industrielle. Le charme et la liberté résident dans le pinceau unique. C'est risqué, ça donne vertige parfois, puisque les oiseaux, ça vole haut. Alors faut apprendre à déployer ses ailes, savoir où se placer dans la flèche des oies sauvages. Sortir sa caméra et rêver, c'est ça la liberté.
Ben, merci beaucoup Jojo, c'était la chronique cinéphilique du Jojo. Avec ça, du coup, s'achève notre dernière émission sur le court-métrage. On en profite encore une fois pour remercier tous ceux qui sont venus au cours du trimestre. Je ne vais pas reciter les noms, mais on remercie tout le monde, que ce soit des magnétos envoyés ou des gens qui sont venus en plateau. Et voilà, on se quitte comme ça. Au prochain trimestre, il y aura un autre thème qu'on ne va pas vous dire maintenant parce qu'on veut garder la surprise et surtout parce qu'on ne sait pas encore ce qu'on va faire comme thème. Et ben voilà, merci Marie d'avoir animé cette émission avec moi.
Merci Boubou.
Et merci encore une fois Aurèle et Raphaël à la technique. Et on se retrouve en février.
Al, aren't you going to kiss me goodnight?
Sure, why not? Good night.
Clap. Le cinéma qui s'écoute.